Quoi qu'il en coûte, une émission d'actu, de chronique et surtout d'humour.
Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume.
Ah ouais, c'était juste pour rigoler.
Mais on a envie d'avoir votre regard sur l'actualité, évidemment.
Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo.
Si l'actualité pourrait nous faire plonger dans la gravité, les chroniqueurs de Quoi qu'il en coûte essaieront de l'éviter.
On s'écoute, s'il vous plaît, On ouvre les chakras et on se tait.
Quoi qu'il en coûte.
Alors, pour rire de tout, ou presque avec nous, rendez-vous un vendredi sur deux à 17h30 sur Antenne Doc dans Quoi qu'il en coûte.
Le paradoxe de l'époque, c'est que depuis qu'on ne peut plus rien dire, on n'a jamais entendu autant de conneries.
Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume.
Et si t'as raté l'émission, retrouve Quoi qu'il en coûte en podcast sur antennedoc.fr.
À Jérusalem, comme à Puy-l'Évêque, Antenne Doc 93.7. Antenne Doc, radio, pas de frontières.
Auditrice, auditeur d'Antenne Doc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce temps de direct, ça fait quelques jours qu'on vous l'annonce. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme et l'association France-Palestine Solidarité 46 nous fait l'honneur de nous amener dans le studio Michel Benizri, qui sera présent ce soir à 19h30 à la SMAC des Docs de Cahors pour nous présenter une conférence gesticulée. Conférence intitulée « Moi, Français, Juifs et Arabes, comment j'ai démissionné du sionisme ?» Alors, c'est avec grand plaisir que nous allons pouvoir discuter ensemble autour de ces sujets. Pour en parler, je suis en compagnie de Leïla Kenouda, de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Leïla.
Bonjour William.
Et avec nous, donc, nous avons Michel Benizri. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et tu es venu en compagnie de ta complice et compagne, Joël Bernier. Bonjour Joël.
Bonjour, bonjour.
Alors, tous les deux faites partie de la compagnie des menteurs. Ça commence bien déjà, avec un nom de compagnie pareil, pour parler donc de ce sujet. Et peut-être on va commencer, Leïla, je vais te laisser présenter un petit peu. Et j'ai envie que, en fait, hors micro, Michel nous parlait de ce qu'il pensait aussi de la FPS et qu'on commence comme ça. Allez, oui. Parlons de la FPS.
Alors la FPS, on est déjà venu plusieurs fois sur les ondes d'Antenne Doc et je t'en remercie William de nous accueillir à nouveau aujourd'hui. Donc c'est une association qui vise à promouvoir les droits des personnes et des peuples notamment pour jouir de leur liberté et de leur faculté à disposer de leur peuple comme ils le souhaitent. Du coup la FPS... évidemment, est en soutien de la Palestine, puisque la Palestine, c'est un État qui est un petit peu victime de plusieurs manquements, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du droit, que ce soit au niveau de... Voilà, c'est un pays qui ne peut pas vivre libre aujourd'hui. Et donc, l'AFPS soutient évidemment le peuple palestinien. Voilà.
Et alors, toi, Michel, ta rencontre avec l'AFPS ?
Alors moi, la rencontre avec la FPS, d'abord, elle s'est faite d'une manière assez étonnante. Je devais aller jouer à Saint-Brieuc et je cherchais qui pouvait, sur Saint-Brieuc, être organisateur ou co-organisateur. Et finalement, c'est le milieu associatif et il s'est avéré qu'une personne faisait aussi partie de la FPS. Alors il faut savoir que dans le milieu juif traditionnel, la FPS est plutôt... pas bien considéré, hein. C'est vraiment des fous furieux, quoi. C'est vraiment des excités, des violents, enfin, etc., etc. Donc, au fond de moi, il y avait une petite part de peur et qui s'est vite dissipée parce que dès que je les ai rencontrés, en fait, j'ai rencontré des gens totalement humanistes et qui ressemblaient tout à fait à ce que j'attendais dans la manière d'être reçu, dans les discours que j'ai pu entendre, dans les analyses qui étaient tout à fait proches de la mienne. Et il se passe que c'est à partir de ce point de départ, eh bien, beaucoup de départements, enfin des associations départementales de France-Palestine m'ont invité et j'ai fait 3 fois le tour de France. Voilà. Ces représentations étaient organisées conjointement avec d'autres comme la Ligue des droits de l'homme ou le Mouvement pour une alternative non violente et aussi souvent conjointement avec l'UJFP dont je parlais tout à l'heure, qui est l'Union des Juifs de France pour la paix. Ce sont les gauchistes juifs qui dont je me reconnais dans leur discours. CEDEC, qui est une formation beaucoup plus jeune et beaucoup plus récente que les vieux de la vieille de l'UJFP. En tout cas, voilà, l'AFPS est sur tout le territoire une association hyper dynamique en soutien aux populations, en information, en éducation sur le territoire français de ce que c'est que vivre, subir le colonialisme sur... Alors, peut-on l'appeler la Palestine en tant que pays, hein, surtout quand on dit qu'il n'y a pas de frontières, mais parce que aussi, bah, pour le moment, il y a vaguement un pays, mais pas vraiment un pays.
Pays qui s'est grignoté en plus. Hein,
et c'est très, très compliqué, quoi.
Alors, pour comprendre un petit peu, quand tu parlais de cette peur, que là, cette notion de peur que tu avais dans ta rencontre avec la FPS, peut-être on peut commencer par parler... Le point de départ pour toi, l'envie de faire cette conférence gesticulée, hein, intitulée « Moi, français, juif et arabe », et ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure et l'envie de raconter cette histoire.
J'ai plusieurs versions, en fait.
Et oui, c'est ça, on est tous un peu pluriel.
Donc je suis là, je me dis « Tiens, laquelle je vais raconter ?» En vérité, je crois que c'est devenu, au fur et à mesure des années, une vraie nécessité pour moi. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'à partir du moment où la chose a commencé à exister, d'autres souvenirs bien plus anciens sont venus nourrir, en fait, cette nécessité. Il se passe que, depuis toujours, au fond, je suis, au fond de moi-même, pas très content, inquiété, révolté par ce que j'ai pu vivre là-bas ou ce que j'ai pu entendre ici au sein de ma famille, par exemple. Parler du monde arabe alors qu'eux-mêmes venaient du monde arabe dans des mots vraiment dégueulasses, je ne peux pas le dire avec d'autres mots, et que le racisme intrafamilial, pour moi, m'était insupportable. Mais quand j'étais enfant ou adolescent, c'était difficile de prendre la parole. Je n'avais pas non plus une analyse politique qui était suffisamment élaborée pour pouvoir apporter des réponses. Et puis j'ai fait ma vie d'homme. Et je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment des choses qui... J'ai voulu comprendre, en vérité, comprendre pourquoi je me posais toutes ces questions. Et j'ai commencé à faire d'abord un premier travail qui était un travail d'historien. Et puis à la mort de mes parents, alors que j'étais aussi en psychanalyse, il y a des histoires personnelles qui sont remontées. Et après la mort de mon père, j'ai accompagné ma mère au cimetière en Israël parce qu'il voulait être enterré là-bas pendant 8 ans. Et pendant ces 8 années, en fait, s'est construit toute une partie du contenu, non plus historique, mais personnel. À partir des histoires que ma mère ou mon père me racontaient, des choses qui m'avaient marqué. Et donc, je posais des questions et j'attendais éventuellement des petits bouts de réponse. Mais quand, dans une famille, on parle arabe, on regrette aussi, d'une certaine manière, la nature et la qualité de la vie au Maroc... pour ces gens qui, simplement, à un moment donné, parce qu'ils avaient 20 ans, ont eu envie de partir parce qu'on leur promettait un pays de cocagne, de miel et de lait, et puis qu'ils avaient envie de voyager, comme beaucoup de jeunes, se sont retrouvés dans un endroit qui ne correspondait pas du tout à ce qu'ils attendaient, un endroit de galère, et où surtout ils ont subi eux-mêmes le racisme à l'intérieur même des populations juives, où en fait le juif européen est supérieur aux autres. Voilà. Donc on est dans le conflit Nord-Sud, déjà. Hein, totalement là. Et comme je le dis aussi dans la conférence gesticulée, à un moment donné, c'est le sionisme oppose monde occidental contre monde oriental, mais c'est juif contre arabe. Mais les Arabes, c'est quoi ? En vérité, les Arabes, le monde arabe, il est fait de chrétiens, de juifs, de musulmans et d'autres religions, bien encore plus minoritaires et inconnues. Mais en fait, il y a plein de choses, quoi. Et en fait, ça devient une sorte de gros paquet. Et dans ce gros paquet, ben, en fait, on ne sait pas trop. C'est des Arabes. Une fois qu'on a dit c'est des Arabes, en fait, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et voilà, moi, ça, c'était des choses dans lesquelles je ne me reconnaissais plus. Je n'avais pas envie de continuer à me reconnaître là-dedans. Et j'ai commencé à chercher à défaire les chevaux, quoi. Voilà.
Et alors, avant de plonger comme ça au cœur du contenu de ce qu'on va retrouver dans cette conférence, je veux bien qu'on s'arrête un petit instant sur la forme que tu y donnes aussi pour comprendre un petit peu la manière dont tu vas raconter cette histoire, ce côté gesticulé. Alors, c'est-à-dire, parce que tu pourrais faire une conférence assis comme ça sur une table avec des livres, faire une thèse.
Donc en fait, ce que l'on nomme conférence gesticulée repose sur un certain nombre de règles. Il faut qu'il y ait du savoir froid, donc savoir académique à l'intérieur. Donc ça, c'est en l'occurrence tout le travail historique que j'ai pu faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le savoir chaud. Le savoir chaud, c'est l'expérience personnelle qui fait de toi un expert puisque tu as cette expérience. Et le mélange des deux, ça ne fait pas du savoir tiède. Ça doit faire de l'orage.
D'accord.
On est d'accord ? Ensuite, on mêle systématiquement un autre, deux autres, trois autres fils narratifs à l'intérieur que l'on appelle des Scooby-Doo et qui, mélangés, vont permettre à la fois avec de la distance, avec de l'humour, avec d'autres angles de lecture, de confirmer, d'affiner cette réflexion et cette confrontation entre le chaud et le froid. Il faut un atterrissage politique. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a absolument une analyse politique. Et on est féministe, on est anticolonialiste, on est anticapitaliste. On défend aussi tout un tas de valeurs qui doivent être dans la conférence gesticulée. Alors après, bien entendu, tout ne coche pas toutes les cases systématiquement. Et puis, donc il y en a qui sont plus proches du spectacle, d'autres en sont plus éloignés. Mais après, moi, je ne me refais pas. Moi, je suis comédien, donc c'est très proche du spectacle. Donc, certains disent « Ah, mais il ne faut pas incarner des personnages. » Bon, moi, je trouve qu'incarner des personnages n'est pas un problème, puisqu'en fait, au fond, ce qui compte, c'est de continuer à défendre une thèse, une analyse et un propos. Et que le fait d'utiliser à un moment donné des personnages pour leur donner la parole ou pour proposer des situations à vivre ou à inventer, si ça permet de nourrir la réflexion et de susciter émotion et intelligence chez le spectateur, pour moi, c'est tout gagné, quoi. Voilà.
Donc, c'est un genre de forme d'éducation populaire, on va dire ?
Tout à fait.
Mm-hmm. Ouais, oui. Que tu mets donc au service de la compréhension de l'histoire. Ça, c'est quand même un enjeu assez important. Tu reviens sur combien d'années d'histoire, déjà ?
2000 ans.
Ah oui. En une heure et demie ?
Deux heures.
En deux heures. 2000 ans en deux heures.
Ouais, 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 ouais.
Et alors, tu passes par plusieurs personnages, si je comprends bien, du coup.
Enfin, je passe par moi.
Je passe par
moi tout le temps.
C'est toi qui regarde, enfin qui nous raconte un résumé de divers personnages importants de l'histoire.
Alors, moi, à différents âges, d'abord.
Je vois Joël qui dit non, je ne suis pas d'accord.
Mais après, je fais parler des personnages, effectivement. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit dès le départ, mon père ou un ami de mon père qui était à la synagogue et qui nous parlait à nous, les gamins, d'une certaine manière. Donc, je redonne vie à ces fantômes du passé. Je vais faire parler ma mère, mon père, ma famille, mais aussi, à un moment donné, Mahmoud et Moshé, vers la fin du spectacle.
Et puis aussi, on a, pendant une seconde, la présence de Ben-Gourion.
Ah oui, on a aussi Ben-Gourion. Enfin,
donc ça, c'est assez rare, hein, vraiment.
Et d'autres, hein, parce que j'ai aussi...
C'est lui...
Comment elle s'appelle cette femme ?
Qui a été chef d'État en Israël.
Peu importe. Il faut dire qu'on a mangé au restaurant et on a goûté
le Cahors.
Alors du coup, on est joyeux. Mais la mémoire, il va falloir la retrouver.
Là, dans ce process d'écriture, du coup, finalement, donc je vous vois très complices tous les deux là, dans cette manière d'avoir abordé cette histoire. Comment ça s'est passé? J'imagine qu'il y a dû y avoir des moments de se dire « Est-ce que je vais raconter telle histoire sur mon père ou choisir telle histoire sur ma mère ?» Il y a eu beaucoup de moments comme ça entre vous, de discussions, de choix,
d'anecdotes.
Entre nous,
pas vraiment. Entre nous, pas vraiment. Parce qu'on peut dire que c'est vraiment Michel qui a fait ses choix. Il avait vraiment toutes les raisons pour les faire lui-même. Et il n'y a pas de, comment dire, de moment où il aurait pu y avoir une autocensure aussi. Auquel il m'a dit « Tu crois qu'on fait ça ou tu crois qu'on ne fait pas ça ?» Non, je pense que c'est ensuite, dans la maturité de la chose qui était écrite, qu'on a pu avoir des échanges. Les choix lui appartiennent. Et ça, pas, ça lui a peut-être posé des problèmes, mais à lui, entre lui et lui, voilà, même si j'étais là, mais bon.
En fait, cette écriture, elle s'est faite en plusieurs étapes. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu une première partie... où j'ai fait une résidence carrément d'écriture au théâtre de Valréas. À l'issue de ce travail, j'ai fait une présentation de 2h30. C'était un immense cours d'histoire. Très chiant, quoi. Très, très chiant. Et j'essayais bien d'y mettre un peu d'humour, etc. Mais moi-même, j'avais absolument besoin d'arriver à recoller tous ces morceaux disparates, cette espèce de mosaïque de... tout brisé, il fallait réassembler les pièces. Et en sortant de ça, moi, j'avais appris énormément sur les questions que je me posais, vraiment de rétablir les choses, mais ça ne pouvait pas faire le boulot. Et je l'ai laissé un peu dans le tiroir se refroidir. Et puis je cherchais. Et à ce moment-là, en fait, il se passe que moi, je bossais sur le territoire du parc du Verdon. Et que sur le territoire du parc, j'avais assisté quelques années auparavant à une conférence gesticulée. C'était Marc Pion qui jouait du tracteur à l'âne. Et m'est revenu à un moment donné l'idée que le contenu même d'une conférence gesticulée dans sa forme permettait de traiter ce type de problème-là. Et en parlant avec une copine qui bossait elle aussi au parc, et à un moment donné, elle me dit « Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une formation autour de la conférence gesticulée au sein même du parc. Et donc, on pourra travailler sur les problèmes de l'eau, les problèmes de territoire, les problèmes sur la mobilité. Enfin, voilà, sur des choses comme ça. » Et moi, j'ai dit « Non, mais attendez, moi, je ne vais pas bosser sur l'eau ou la mobilité. Moi, j'ai mon sujet. C'est mon histoire d'Israël. » Je l'appelais comme ça à ce moment-là. Et elle dit « Mais il n'y a pas de problème. Vas-y, fonce. » Et en fait, ils ont, au parc, organisé cette formation autour de la conférence gesticulée, donc qui dure quand même pendant 4 mois, à raison de un week-end de toutes les 3 semaines. Et en fait, on a bossé. Mais là, à ce moment-là, les deux formateurs ont apporté non seulement leur savoir-faire en termes de conférence, mais aussi leur propre sensibilité et leur compréhension de ce qu'allait être mon projet. Et très, très vite, ils m'ont donné les moyens d'incarner le sujet historique que j'avais abordé. Et en l'incarnant, alors à ce moment-là, bah après, c'est toujours pareil. Quand on te dit, vas-y, raconte un truc, mais lequel ? Et du coup, en fait, en cherchant, bah, tiens, tel événement pouvait s'associer à tel autre. Et à ce moment-là, bah, pour moi, les choses ont commencé à s'assembler. Et puis après, je les ai aussi assemblés avec de l'humour sur moi-même, parce que il y a des parties que je raconte où c'est pas vrai. Mais en fait, on s'en fout du vrai, de la vérité. Parce que un des fils, justement, narratifs, c'est qu'est-ce que c'est qu'une histoire ?
Qu'est-ce que c'est que la vérité aussi ?
Alors, la vérité, c'est déjà... Mais une histoire, qu'est-ce que c'est, quoi ? Comment ça marche ? Pourquoi on en a besoin ? Ça, c'est un de mes fils à l'intérieur. Mais naturellement, quand on s'appelle la compagnie des menteurs, est-ce qu'on est là pour dire la vérité ou pour faire émerger la vérité en utilisant éventuellement d'autres artifices, comme font certains politiciens, d'ailleurs, qui ont, eux, par contre, pour objectif de masquer la vérité au profit d'autre chose. Voilà, enfin bon. Donc, on est... soi-même, par le plateau, pris dans la relation avec le spectateur, pris dans une injonction de vérité. Mais à un moment donné, je le dis, mais non, c'est pas vrai, quoi. Mais non, c'est pas vrai. Et c'est un jeu, c'est vraiment un clin d'œil. Mais chacun doit à un moment donné avoir juste ce petit outil qui permet de dire, non, mais attends, avec ça... t'as compris que ce qui se passe dehors, que ce qu'on te raconte là, que la manière dont l'histoire est écrite, c'est le vainqueur, qui a écrit l'histoire, que c'est voilà que ça, ça a une fonction, c'est de faire récit national, etc., etc. Donc reprenons ces récits. C'est comme ça ce que je commence dans la conférence gesticulée. Je commence par le récit national français, même moi français, et je vais commencer par le démonter. Et on va se rendre compte qu'en vérité, que la vérité, en fait, on s'en fout parce que ce n'est pas l'objectif, tout simplement.
Et ce qui t'amène donc à rajouter donc cet intitulé peut-être hein, dans cette conférence, cette démission du sionisme que tu nous présentes. Alors, si on a pu en parler ici avec Ariel Imi, et finalement il existe peut-être plusieurs formes de sionisme, alors j'ai envie de te demander à toi, comme un genre de suite d'émission, c'est quoi finalement ta version à toi du sionisme et ta définition à toi ?
J'ai découvert une hypothèse à laquelle je n'avais pas pensé en écoutant l'émission d'Arié, Halimi. Lui, il dit « Je suis ni pour ni contre, en fait, je suis asioniste. » Et alors moi, c'est marrant, j'y avais pas pensé, je l'avais même pas envisagé. Et puis en fait, en y réfléchissant, non, je dis « Je suis devenu antisioniste. » Oui, mais je le suis devenu. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, je l'ai été. Je l'ai été pour une bonne raison. C'est que la propagande m'avait vendu un projet politique dans lequel, par contre, là, vraiment, je m'étais reconnu, mais qui, à l'épreuve du réel, n'a pas résisté. C'est-à-dire qu'on a affaire à une suprématie blanche, européenne, qui opprime une population très proche, c'est-à-dire les Juifs Mizrahim. Donc déjà, on va découvrir qu'est-ce que c'est que les Juifs Mizrahim. Ce sont tous les Juifs orientaux, et pas seulement ceux d'Afrique du Nord, mais tous les orientaux. Après, bien entendu, les séfarades. Mais il y a une noblesse européenne. Et puis, de la misère, quoi. Le reste, c'est la misère, ça n'existe pas. Donc, en fait, il y a un moment donné où ça, il faut le démonter. Et ne pas oublier que le sionisme est parti d'Europe de l'Est et des Balkans, que c'est une population blanche, éduquée, des architectes, des médecins, des scientifiques, etc., que cette population est dans une pensée coloniale de l'époque, hein, fin du 19e, raciste, puisque à ce moment-là, on pense aux races, enfin, la science croit aux races. Donc, si, comme je le prétends, le sionisme s'élabore sur un certain nombre de valeurs comme celle-ci auxquelles je n'adhère pas, alors, je ne peux pas dire que je suis asioniste. Naturellement, je deviens antisioniste, puisque je considère que, c'est que la pensée coloniale s'inscrit dans un temps de merde, au 19e siècle, guerrier, raciste, et qui considère que ces populations arriérées sont de la merde, sont de la sous-merde, sont juste bonnes à aller travailler pour faire de la canne à sucre, comme on a exploité la population africaine dans les colonies. C'est ça, la pensée coloniale. Donc, du coup, ça autorise et ça justifie des comportements sur un territoire qui s'appelle Palestine ou Israël, comme on voudra, et que ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables. Voilà.
Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui confondent antisionisme et antisémitisme ?
Eh bien, qu'ils fassent un peu de gymnastique, parce que ça, c'est de la fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire... l'antisémitisme, si on le réduit à l'antijudaïsme, c'est déjà le réduire, parce qu'en fait, alors Sem, fils un des enfants d'Adam et Ève, aurait donné naissance à une population qui sont donc les Sémites. Mais partant du principe que c'est une histoire, Adam et Ève, qui n'existe pas, hein, c'est une mythologie. Donc, naturellement, il y a aussi une mythologie du sémitisme, mais qui repose sur le même désir, c'est-à-dire de dire on est des Blancs, et on est une suprématie, et puis en face, on a d'autres populations, donc on va classifier. Hein, voilà, alors on a les ceci, on a les cela, et ils sont de toute façon de valeur inférieure. Hein. C'est aussi le procès de Vaïaloïd. Il faut aussi se remettre dans cette pensée-là, où on se demande est-ce que les Indiens ont une âme ou pas. C'est la même chose. Bon. Donc, c'était quoi la question à laquelle je suis en train de répondre
la différence entre... ce que tu dirais à ceux qui confondent l'antisémitisme et l'antisionisme.
Donc, en fait, surtout, et là-dessus, je suis d'accord avec Ariel Imi, c'est que non seulement le sionisme est une valeur politique, une idéologie politique, mais qu'il y a un intérêt à vouloir faire se rapprocher, se superposer même, la religion et la politique. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un monde qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce soit le salafisme politique et le suprématisme blanc chrétien, catholique, etc. Donc en fait, on a une poussée comme ça des nationalismes colorisés, qui est mondiale. Et je pense que nous, personnes de gauche, on a à non seulement continuer à y réfléchir, mais aussi à faire prendre conscience que tout ça, c'est quand même des manipulations intellectuelles. Et moi, je dis vraiment de la fainéantise. Donc, il y a un moment donné, il est question d'une foi. Donc, on a le droit de croire. Bon,
c'est ce qu'on veut.
Et ça, c'est la laïcité. C'est une chose. Maintenant, ça, c'est croire. Ensuite, il y a un mouvement politique. Et là, par contre, on a le droit de s'y opposer, d'avoir une opinion différente, de contester, d'argumenter. Mais on ne peut pas s'arc-bouter comme ça en disant on va pénaliser le fait d'être antisioniste, d'autant plus que des juifs antisionistes, nous sommes nombreux. Alors ça emmerde le monde. Donc il faut absolument qu'on disparaisse du champ visuel parce que, et auditif, parce que sinon on vient contrecarrer cette volonté de disparition. Et puis, surtout, de conglomérats comme ça.
On ne peut plus être antisémite tranquille.
On ne peut pas être antisémite
forcément,
tranquille.
Forcément, si tu as des juifs.
Ou antisémite. Ou antisioniste. Voilà. Donc, en fait, on va mettre Sora, on va mettre Dieudonné, on va mettre comme ça des emblèmes de gens en disant eux, ils sont antisémites. En fait, ils sont. Certains, peut-être, vont l'être, bien entendu. Mais oui, alors, on peut dire on est anti-juif. Ça me pose un problème, bien entendu, mais anti-musulman, anti-laïque me pose aussi problème, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Anti-sioniste, non, me pose aucun problème.
D'accord. Mais j'ai l'impression quand même que cette pensée-là, qu'on est en train d'aborder ensemble, elle dépasse, pour toi, si je suis bien, le fil conducteur là, de tout ce que tu m'as expliqué, la notion d'anti-sionisme. C'est presque, on peut l'étendre un petit peu sur ce conflit, sur la relation nord-sud, la relation de la suprématie blanche, pour reprendre tes mots sur les autres. Je crois qu'on peut même plutôt l'étendre jusque-là, cette réflexion. Ça dépasse le concept juste de l'antisionisme. C'est l'anti-oppression des peuples, l'anti-suprématie. Et tout ça, c'est un lien du colonialisme qui nous amène jusqu'au capitalisme. Presque anticapitaliste.
je vais aborder la question par un autre biais. Je vais raconter une petite anecdote. En fait, depuis que je suis enfant, je n'ai vu comme représentation du territoire de la terre d'Israël qu'une seule et unique carte qui englobe, en vérité, la Cisjordanie et Gaza. C'est toujours la même, qui est en pendentif, c'est un bijou, c'est une carte de vœux, c'est un territoire fleuri, c'est totalement anodin. Et en vérité, ça remplit une fonction narratrice, d'une certaine manière, on met dans les imaginaires une carte. Il n'y en a pas deux. Donc en fait, il n'existe pas de territoire palestinien. Il n'existe pas. Alors s'il n'existe pas, comment on peut créer quelque chose ex nihilo ? Puisqu'il n'existe pas. D'ailleurs, les sionistes disent mais la Palestine n'a jamais existé, puisque avant d'être israélienne, elle était anglaise, avant d'être anglaise, elle était ottomane, avant d'être ottomane, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas de Palestine. Alors, c'est bien entendu aussi des arguments fallacieux, parce qu'en vérité, il y a eu des passeports palestiniens. Donc, bon. Mais c'est toujours pareil, c'est affirmer une chose avec du cran et puis bien.
J'ai envie de dire, avant les passeports, il y avait quand même des personnes. Pardon, excuse-moi. Pour compléter ton propos, c'est qu'avant les passeports, il y avait quand même des individus, des êtres humains, des femmes, des enfants, des hommes. Il y avait quand même des gens qui étaient présents et qui s'appelaient Palestiniens.
Palestiniens.
Ouais.
Oui.
Un territoire, ça n'est pas réductible à une nation.
Tout à fait.
C'est là où c'est vraiment important, intéressant, et où ça dépasse aussi l'analyse du problème israélo-palestinien. On peut l'importer à bien des endroits.
Et donc, on voit qu'on parle de population, on parle de nation, et qu'en vérité, toutes ces voies d'entrée, je les traverse dans la conférence gesticulée. Exactement par là. Comme un enfant, on peut s'interroger. C'est-à-dire que, pourquoi on parle de nation ? Parce que 1789, il y a écrit chaque peuple a droit à un État-nation. Donc il faudrait déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et à partir du moment où le peuple juif existe, puisque si on le pose comme un idiome, le peuple juif existe, donc il a le droit à un État. Où ?
C'est ça, petite parenthèse.
Et le où, lui, par contre, il est éminemment politique.
Je me permets de faire une parenthèse en me demandant aussi, il est où le territoire des Kurdes ? Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait ?
Bah oui.
De la même manière.
C'est tout à fait comparable, oui. Alors, les Tibétains, enfin, non, mais alors là, on peut aller loin.
Il y en a du monde, hélas.
Ouais.
Et les Apaches.
Alors, mais justement, là, on parle quand même de quelque chose qui est assez, finalement, difficile à supporter philosophiquement, mentalement, politiquement, quand on se rend compte comme ça, le destin de tous ces peuples sans terre. Comment, toi, tu arrives à aborder ces questions-là en y mettant la notion de l'humour ? Surtout que depuis le 7 octobre, là, 2023, ça devient encore plus difficile, j'imagine, d'aborder la question avec humour sans tomber sous le joug de certains qui se sentent vexés par ce qui est en train d'être dit. Comment t'as procédé ? Comment tu fais ? C'est quoi ton petit secret de tout ça, toi ?
Bon, déjà, la première des choses, c'est que le 8 octobre, j'étais comme un dingue. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Je devais jouer le 10. Donc, je fais quoi ?
Avec ce spectacle.
Avec ce spectacle.
D'accord.
Donc, je ne savais pas. Je devais aller à l'ES. Et alors, au départ, j'ai dit non, mais the show must go on. Il faut continuer. Non, machin, il faut y aller. Et en fait, après, le 9, je me disais, mais je ne peux pas, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rire. Moi-même, je n'étais pas en état de pouvoir monter sur une scène et faire de l'humour avec la tragédie qui était en train de se vivre là, maintenant, tout de suite. La tragédie, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'elle continue. Et il a fallu que j'attende un mois pour arriver à me dire, bon, allez, ok, en fait, tout ce que j'ai pu traverser pendant ce spectacle, il reste à dire. Maintenant, il y a d'autres choses que je vais dire qui n'étaient pas dans l'écriture initiale. Et en fait, à partir de ça, j'ai commencé à travailler et à ajouter des petits bouts par-ci, par-là. L'humour, c'est, dit-on, le moyen de ne pas sombrer dans le désespoir, peut-être. Et que ce qui se passe là-bas pour des gens éminemment pacifistes, ne nous reste que l'humour pour ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que c'est insupportable, quoi. Voilà. Et après, l'humour, il vient aussi beaucoup de l'humour juif, ce qu'on appelle l'humour juif. Beaucoup, c'est l'humour des Juifs de l'Est.
L'humour juif, c'est-à-dire... Alors là, j'ai vu ça dans le topo de ton spectacle. Je me dis, c'est quoi l'humour juif ?
Qu'est-ce que c'est l'humour juif ? Il y a peut-être une définition, j'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand des juifs font de l'humour sur les juifs, eux, ils ont le droit.
L'autodérision.
Que si ce n'est pas un juif qui fait de l'humour sur les juifs, alors on appelle ça de l'antisémitisme. Mais peut-être que c'est une forme de description qui pourrait, je ne sais pas. Bon,
je comprends bien ce que tu dis. En fait, les blagues qu'on met sous l'humour qu'on met sous la forme du stéréotype,
oui.
Voilà, qu'on va dire comme ça. On peut faire de l'autodérision plus facilement, c'est plus facilement toléré que de se moquer de son prochain.
C'est-à-dire qu'on se moque de soi-même.
C'est ça.
D'abord, mais aussi, ça fait réfléchir.
Et en même temps,
c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se moquer, parce qu'en fait, on s'en fout. Ça, c'est le premier degré.
C'est de savoir rire des choses.
Mais en fait, c'est qu'il y a un moment donné, toute chose qui nous amuse, c'est qu'elle nous fait réfléchir. Et qu'elle nous met, en fait, la peau de banane, le clou, ce qu'on voudra. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'était pas prévisible, pas prévu. On s'accroche dessus, avec ta jolie robe de mariée, il y a un clou, pim, toute déchirée, t'es en culotte. Voilà, donc tu hurles de rire. Tu marches avec ton sac et tes poireaux, tu tombes dans la bouche de métro, tout vole. Toi, tu t'es pété le bassin et les trois cols du fémur. Mais donc c'est terrible, mais on ne peut pas s'empêcher de rire. C'est-à-dire que, donc, il y a une forme de désespoir qui est avec le rire. Tout à l'heure, je vous racontais une blague à table. C'est le désespoir de quelqu'un qui veut changer de nom deux fois de suite, simplement parce qu'à chaque fois, on lui demande d'où il vient, en fait. C'est toujours ce truc, voilà, d'où tu viens, mais d'où tu viens. Mais t'as beau être né là, on va te dire, non, mais tu viens d'où ?
C'est ça. Jusqu'à combien de générations on pourrait se poser la question ?
Ouais, ouais. Ouais.
Et puis aussi, je trouve que le fait de travailler sur une dimension qui commence avec l'enfance permet naturellement à cet humour de se déployer jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, entre l'enfant que tu es et l'adulte que tu es, il n'y a pas tant de différence que ça. Et la plupart du temps, les enfants, on trouve toujours qu'ils ont une manière de poser les questions qui est extrêmement pointue et juste. Et comme la conférence, elle est construite aussi à partir de ces questionnements, eh ben, l'humour, c'est-à-dire le rire qui se déploie comme une pensée, en fait, il va parcourir toute la conférence, quoi.
Alors, on dit l'humour, moi, j'ai presque envie de dire la philosophie du clown. Ce que j'entends un petit peu. Dans ce que tu me décris, en fait, cet art du clown de caricaturer une situation pour la rendre grotesque et drôle, alors qu'à la base, c'est grinçant ce dont
en
on
fait,
parle.
Bah oui, c'est-à-dire que le clown, c'est terrible. Hein. C'est toujours terrible ce qu'il arrive au clown. Il prend des claques, il tombe, il reçoit un seau d'eau.
Voilà. Okay. Art que tu mets donc au service de cette histoire, hein. De cette histoire israélo-palestinienne, on peut le dire ça comme ça.
Oui, alors, en fait, il se passe qu'on arrive là. L'histoire aurait pu faire qu'on arrive ailleurs. On aurait pu être en Ouganda, on aurait pu être en Amérique du Sud, on aurait pu être à Madagascar. La dimension religieuse a ajouté son poids pour que le projet... nationaliste juif se fasse sur cette terre, hein, que l'on appelle pudiquement la Terre Sainte, comme ça, du coup, on n'a pas dit qu'elle c'est Palestine ou Israël, ce qu'on voudra. Là, d'un coup, elle est sainte, elle est même trois fois sainte. comme ça, voilà. Oh non, c'est pas moi. Voilà. Voilà. Mais, ouais, non, ce qui compte pour moi, c'est de continuer à mettre en face. Et du regard, et oui, en fait, l'humour dans ce regard et dans cette analyse, etc., c'est aussi un peu, c'est à la fois l'huile qui fait que le machin, il continue à rouler, puis c'est aussi le clou dans l'engrenage, quoi. C'est à un moment donné, toc, ça permet de dire, stop, on s'arrête là, on regarde. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs, ça concerne pas que les Juifs, en fait, c'est à cause des Français aussi.
C'est
ah
ça.
Oui, ah merde, bah oui, c'est vrai, tiens. C'est un peu, tout ça, quoi.
Et du coup, j'ai envie d'ajouter, pour rejoindre le propos de Michel un peu, c'est que cette conférence gesticulée... Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une conférence gesticulée avant de te connaître, Michel. je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup apprécié cette approche-là, parce que c'est une approche qui est complexe, mais à la fois qui est simple et qui est accessible. Et du coup, moi, ça m'intéressait un petit peu de comprendre cette histoire-là, parce qu'on est toujours souvent à côté de la plaque, en tout cas, et parfois à côté de la plaque, et on a une méconnaissance. Moi, qui ai 46 ans aujourd'hui, j'ai une méconnaissance de cette histoire-là. Donc, c'était important pour moi de comprendre les choses. Les gens qui sont autour de moi, de ma génération, il y a une méconnaissance aussi. Voilà, on parle, on accuse, on dénonce, mais on ne comprend pas tout à fait ce qui peut se passer. Et c'est vrai que la conférence gesticulée permet d'avoir quelque chose, un support, un outil accessible à ça. Et c'est aussi pour la jeunesse, en fait. Je trouvais que c'était une belle façon de faire passer. J'ai beaucoup aimé la métaphore de l'orage tout à l'heure, mais c'est une façon de rendre ce sujet qui est quand même complexe, qui est tragique, qui est lourd quand même, sans forcément devoir prendre parti. Hein. C'est pas ça le but, mais en tout cas de pouvoir comprendre cette complexité, parce que je crois, en tout cas moi quand j'étais jeune, je parle pas pour les jeunes d'aujourd'hui, mais moi quand j'étais jeune, personne ne me l'a expliqué, cette histoire-là, ce parcours-là, voilà, j'ai découvert toute seule, je me suis intéressée à cette question-là beaucoup plus tard, hein, et il y a un réel souci, c'est que... On s'aperçoit qu'on ne transmet rien à la jeunesse. En termes de transmission, cette conférence gesticulée, elle est très porteuse et on s'aperçoit qu'on ne donne pas les billes à nos enfants pour l'avenir, pour déconstruire des idées aussi, pour déconstruire des interprétations fausses, erronées, etc. On n'a aucun outil. Et cette conférence-là, moi, ça m'a intéressée de suite quand j'ai reçu ce mail et qu'on m'a dit « il y a ça ». Mais j'ai dit oui tout de suite parce que C'est un outil qui nous permet de déconstruire les idées reçues. C'est un outil, cette conférence gesticulée, qui lutte contre les racismes, les préjugés, l'antisémitisme, bien sûr, mais l'anti-rejet des Arabes également. Il y a vraiment quelque chose de fort à travers cette conférence gesticulée qui m'a attirée, moi, personnellement. Et je me suis dit, oui, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On n'a pas les moyens, mais il faut qu'on le fasse. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'on le fasse. Et ça a duré ce... Pour un petit peu raconter quelque chose de personnel, ça a duré pendant plusieurs mois où j'ai dit à Michel, oui, ça va se faire, mais pas encore, mais bien sûr, mais on y arrive, mais on n'y arrive pas et on n'a pas les moyens. Et voilà, c'était et ça me tenait à cœur qu'on y arrive et on y arrivait aujourd'hui et je trouve ça formidable. Merci Michel d'être là, hein. Merci Joël également. Mais je trouvais que c'était un outil, alors voilà, j'espère que les gens le comprendront dans ce sens-là en tout cas, parce que c'est un outil formidable pour déconstruire les préjugés, les interprétations, les idées reçues, l'antisémitisme, l'anti-rejet des Arabes. Voilà, je me répète un peu, mais il y a tout ça dans cette conférence gesticulée et c'est important.
Après, c'est complètement à élargir parce que c'est totalement universel, hein. C'est-à-dire que quand on a compris un processus, eh ben on peut l'appliquer. Alors, c'est anti-gros, anti-ceci, ce qu'on voudra, hein. C'est des processus. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est à partir de cette forme-là, dénoncer des processus. Donc, c'est plus large, bien entendu. Alors, moi, mon sujet, il est à un endroit.
Bien sûr.
Mais ce que les gens me disent en sortant, c'est qu'en fait, c'est bien plus universel que le simple propos de dire les Juifs, les Arabes. Ça va bien au-delà.
Alors, moi, il y a quand même une question que je me pose, du coup, aussi dans tout ça. C'est, s'il y a le public qui te pose des questions, je suis curieux de voir... Comment cette création, cette proposition a été reçue, toi, par ta famille, par tes proches, dans le cadre de cette pluralité d'identité? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont dit « Non, là, Michel, tu vas beaucoup trop loin, tu ne peux pas dire ça, là
C'est difficile à répondre parce que peu sont venus, en vérité.
D'accord.
Alors, des cousins, des cousines proches, qui se sentaient, je pense, plus de gauche que de droite, ont fait le choix de venir et se sont reconnus. On dit, mais c'est notre histoire que tu racontes. Et ça, ça leur a plu. Il y a toute une autre partie qui se sent plus de droite et qui, là, carrément, ne peut pas venir. C'est pas possible. Il y a 15 jours, on a eu un repas ensemble, un peu à mon initiative. Donc, je suis monté à Paris. Du coup, je leur ai demandé d'organiser une petite bouffe. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Il y a eu de manière tacite, c'est on n'en parle pas. Voilà. On n'a pas pu s'en empêcher d'en parler quand même un peu. Chacun, peut-être avec des gants et en prenant aussi des pincettes pour ne pas froisser l'autre. Mais bon. Alors il y a des gens qui sont plutôt pro-sionistes et plutôt pro-Israël, pro-machin. Et c'est normal qu'ils se défendent parce qu'ils ont été attaqués. Et en face, ben, un autre discours qui dit « Oui, non, mais attends, il y a un moment donné où il y a une disproportion. » quoi, et que peut-être que s'ils ont besoin d'attaquer parce qu'eux-mêmes se défendent au quotidien, de perdre leur territoire au quotidien, d'être emmerdés au quotidien, d'être sur les checkpoints, sur le travail, sur d'être payés 10 fois moins, sur ceci, et puis que surtout l'empêchement de l'autodétermination. Depuis 1947, ils doivent avoir un territoire.
Depuis 1947, ils se font coloniser.
Il y a eu des guerres, certes, mais à un moment donné, il faut aussi sortir des imaginaires d'un grand Israël et décréter que non, il ne peut pas y avoir de colons qui continue à aller s'aborder un processus de paix déjà si fragile, en continuant à faire des implantations en Cisjordanie. Et là, maintenant, carrément, les mecs, ils veulent retourner dans Gaza. Le problème, c'est que si Ariel Sharon, en son temps, a eu le courage de faire déménager 30 000 mecs, c'est-à-dire il fallait un de ces colons, il fallait 10 militaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus 30 000, ils sont 300 000. Donc, il n'y a pas suffisamment de militaires pour aller les déloger.
Et il n'y a pas de volonté, surtout.
Alors, mais cette volonté politique, il ne faut pas l'attendre de la part de Benjamin Netanyahou.
Bien sûr que non.
Mais en même temps, Ariel Sharon, il était exactement au même endroit. Donc, ça a été une surprise. Mais c'était à un moment donné, est-ce qu'il y a quand même des gens qui se disent, bon, en fait, il y a plus de bénéfices à être dans un processus de paix que d'être dans un processus de guerre. c'est une question. Parce que pour certains, c'est, on s'en fout d'être dans un processus de guerre, vu que de toute façon, la parole de Dieu est plus importante que la vie humaine. Donc, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et que de toute façon, ils ne sont pas dans le rapport au temps court d'une vie, mais sur un temps long, en disant, on s'en fout, dans 3, 4, 5 générations, on aura fait tellement d'enfants qu'on sera majoritaire et qu'on les chassera. Alors le « on », qu'il soit d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, tu te retrouves avec des belligérants, belliqueux, quoi, voilà, qui disent, mais on les chassera, on les chassera, on les chassera. Mais il faut aussi qu'il y ait d'autres, qui tiennent d'autres discours, qui disent, mais on peut vivre ensemble. Et au lieu de se positionner en disant on va chasser l'autre, c'est plutôt on va vivre ensemble et faire notre miel de nos richesses et de nos différences. En faire notre miel, pas... Bon, donc voilà. Donc en fait, on peut pas toujours facilement parler de tout ça avec la famille, mais en même temps, il est bon de rappeler qu'il y a un peu des comportements qui sont pas acceptables. Voilà.
Alors, si depuis quelques jours, sur cette antenne, on se pose beaucoup la question, c'est quoi, donc, dans cette histoire de pluralité d'identité, être arabe, être juif, finalement, en ce moment, on l'a beaucoup demandé, mais je me rends compte qu'il y a une question que je n'ai pas beaucoup posée, l'identité française dans tout ça, pour toi.
Oh ben pour moi, c'est peut-être ma première identité, puisque je suis né à Paris, dans le 10e. Je suis né dans le Faubourg Saint-Denis, juste à côté, quand même, hein, rue des Petites Écuries. Donc, non, je suis né... Juif. Alors, je suis né français. Je suis né juif. Moi, j'ai été français à la naissance. Mes parents, il a fallu attendre 82 ou 83 pour qu'ils aient leur papier français. Alors qu'ils étaient, ils étaient en France depuis 56. Hein. Bon. Mes parents ont toujours voulu qu'on s'intègre. C'était plus que de l'intégration. C'est carrément, il fallait que la dissolution dans le paysage. Mais en même temps, j'ai reçu une culture orientale. J'ai reçu un bout de langue, pour reprendre les mots dans Bye Bye Tibériade, que vous avez peut-être vu. La réalisatrice parle à sa mère, Yam Abbas, en disant ben « Moi, je suis né en France, voilà, mais ma mère m'a donné un bout de langue. » C'est-à-dire qu'elle ne le parle pas, mais elle le comprend. Moi, je suis un peu dans cette posture aussi, dans cette position-là. C'est-à-dire que je ne parle pas l'arabe, mais un petit peu. Je le comprends, mais pas tout. Parce que, après, c'est le vocabulaire, etc. Mais c'est une culture. En vérité, c'est une culture orientale. Et ça me touche, mais au plus profond de moi-même. C'est constitutif. Donc, y a des gens, ils sont bretons, d'autres sont corses. C'est ça leur culture, en vérité. Mmh. Moi, je suis oriental. Mmh. Voilà. Oui, avec le Maroc. Avec,
quand on était au cinéma ensemble, puisqu'on a vu le film ensemble, entre palestiniens, enfin, elle, comment elle racontait son enfance palestinienne, et puis les générations d'avant, puisque ça parle sur 4 générations de femmes, et ce que moi j'ai entendu dans la famille de Michel, ou dans laquelle j'étais tout à fait acceptée, d'ailleurs, donc là on voit que c'est une culture juive, mais tolérante, et c'est la même chose. Et Michel était à côté de moi, et moi j'avais l'impression qu'il était chez lui. Enfin, je sais pas comment vous dire que c'était sa famille, dans les gestes de tendresse, dans la manière de manifester les émotions. Ça, c'est très, très, très frappant. On se dit, enfin, moi je suis d'origine corrézienne, limousine donc, hein, c'est pas la même chose. Quand on se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait tant d'animosité entre ces deux populations, c'est-à-dire les juifs d'origine arabe et les musulmans qui vivent en Palestine, comment c'est possible? C'est tellement la même chose.
Oui, je crois que ça fait partie des questions qui animeront beaucoup d'associations comme la LDH, comme la FPS, tant que cette énergie un peu négative, cette animosité, pour reprendre tes mots, Joël, qui existera entre deux peuples humains, je crois que voilà, j'ai bien peur, hélas, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la réponse, hein, pour ma part.
Il ne s'agit pas forcément...
Comment on va se soigner de ça?
Il ne s'agit pas de trouver la réponse, parce que la réponse, elle n'est jamais univoque. Mais par contre, de prendre conscience d'un processus qui est très simple, hein, Ouais, mon voisin, il est nanana. Ouais, le mec du village à côté, nanana. C'est le même processus. Hein. Mm-hmm. Alors tout après, c'est le mec. Non, mais bon, les Tarnais, c'est pas la même chose que les Lotois. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose. C'est un peu plus petit, parce qu'on va considérer quand même qu'on a un certain nombre de points communs. Mm-hmm. Le truc, c'est que plus on s'éloigne, plus on va considérer qu'on a de moins en moins de points communs, mais que l'histoire nous a aussi enseigné qu'on avait des différences. C'est pas, l'histoire ne nous enseigne pas quels sont nos points communs, nous enseigne quelles sont nos différences. Et l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, rappelez-vous, c'est écrit par le vainqueur. Aujourd'hui, qui est le vainqueur? Posons-nous cette question. Et depuis quand? Et quel est l'intérêt de raconter cette histoire de cette manière-là, depuis le début? Cet intérêt peut aussi avoir évolué, mais quand on a une population qui est en conflit avec une autre, peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes dieux, parce que l'autre maîtrise les voies commerciales maritimes et qu'on ne peut pas commercer tranquillement avec l'Orient, alors on va en faire des traites, des lâches, des ce que tu voudras. Et en fait, on va commencer à désigner l'autre comme un ennemi, en s'appuyant éventuellement sur des mensonges. Parce que, reprenons le cas de Roland à Roncevaux, qui est quand même l'histoire fondatrice de la France, hein, l'histoire de Roland à Roncevaux, basée sur une fake news, le mensonge, donc, que je ne dévoilerai pas ici, parce que je venais ce soir voir le spectacle. Mais,
faut ne pas spoiler, non.
Mais bon, enfin, je veux dire, qui est connu depuis toujours, tout le monde le sait, mais voilà, que je reprends, parce que quand même, il ne faudrait pas oublier que. Et en fait, à partir du moment où on travaille sur ça, et que, eh ben, on se rend compte que, ben, on peut déconstruire. On peut déconstruire. Parce que quand même, tous les ans, ou presque, j'entends le couscous est le plat préféré des Français. Non mais je suis mort de rire, quoi. Qu'est-ce que je dois dire à Jordan Bardella, quoi?
À lui, rien. À lui, rien.
Et ouais, mais en même temps,
est-ce qu'il faut... C'est lui qui devrait venir voir ce genre de spectacle.
Tout à fait.
Est-ce que je dois le noyer dans la semoule ou dans le jus, quoi?
Bon, alors il y a des réponses à des questions qu'on va entendre ce soir, du coup, à 20h. C'est ça, c'est 20h, hein, Leïla, je ne me trompe pas. Hein.
Alors, je pense que l'ouverture des portes, c'est 19h30 au Docks de Cahors. Et le spectacle doit commencer à 20h, normalement.
Voilà, et soyez à l'heure, hein, parce que moi, je serai à l'heure.
Le spectacle « Moi, français, juif et arabe, comment j'ai démissionné du sionisme » de et par Michel Benizri. Et pour terminer, depuis tout à l'heure, je te parle, je te vois avec un badge, avec un mot écrit en trois langues.
Oui.
On est en direct, j'espère que tu ne mets pas trop en porte-à-faux, que tu saurais nous le dire en trois langues et ce serait un très joli mot de la fin.
Alors c'est écrit en hébreu, shalom, en français, paix, et en arabe, salam.
Super.
Voilà, et c'est un badge que l'UJFP avait édité il y a quelques années.
Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup, Michel, d'être venu répondre à mes questions. Merci, Joël, de l'avoir accompagné. Merci, Leïla.
Merci, William. Merci de nous recevoir à nouveau. Soyez nombreux ce soir. On vous accueille à bras ouverts, tout le monde. Et puis, l'Association France-Palestine et la Ligue des Doigts de l'Homme, on remercie tous les bénévoles qui seront présents aussi ce soir. Et voilà, merci à vous tous.
Et enfin, pour terminer, parce que l'humour peut toujours se mettre au service de l'humanité et nous permettre comme ça de prendre un petit peu de la distance avec des problématiques, savoir de rire de nous, savoir de rire de tout, c'est important. Et c'est Catherine qui aura le mot de la fin, étonnamment, avec un titre qui s'appelle « Juif arabe ».
Merci, ouais. Michel.
Merci.
Ensemble.